Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français facile. À la une ce soir, la faim dans le monde qui augmente. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, publie son rapport annuel et la situation devrait encore s'aggraver avec la crise du coronavirus. Et l'on parle de Covid party, traduisé des soirées Covid, événement entre personnes qui ne croient pas à la dangerosité du virus. Un participant à l'une de ces soirées est décédé au Texas, il avait 30 ans. En Pologne, le chef de l'État, Andrzej Duda, officiellement réélu, mais cela a été très serré face au maire centriste de Varsovie. Et puis le bilan de la Fashion Week, la semaine de la mode, elle s'est achevée à Paris et en raison de la pandémie de coronavirus. Il y a de la déception.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
Alors c'est l'une des nombreuses conséquences de la crise du coronavirus et cette conséquence-là est dramatique. La faim dans le monde devrait fortement augmenter. Elle a déjà augmenté l'année dernière, en 2019. C'est ce qui ressort d'un rapport de la FAO. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On fait le point sur ce rapport avec David Baché.
Entre 83 et 132 millions de personnes supplémentaires souffriront de la faim cette année à cause du coronavirus. 83 à 132 millions de personnes qui s'ajoutent donc aux quelques 690 millions d'êtres humains qui étaient déjà en sous-alimentation chronique l'année dernière, soit 8,9% de la population mondiale. Une tendance clairement à la hausse, c'est 10 millions de plus qu'en 2018 et 60 millions de plus qu'en 2014, qui rend encore plus improbable l'un des principaux objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. Non seulement la faim ne sera pas éradiquée dans le monde en 2030, mais elle devrait alors concerner 840 millions de personnes. Parmi les autres enseignements de ce rapport, 3 milliards de personnes n'ont pas accès à une alimentation équilibrée. La FAO constate qu'un régime alimentaire sain coûte 5 fois plus cher qu'un régime ne répondant qu'aux seuls besoins énergétiques et constitué le plus souvent des féculents de base.
Également en lien avec la crise du coronavirus, le constat à présent de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le monde ne va pas revenir à l'ancienne normalité dans un avenir prévisible, affirme le directeur général de l'OMS. Ça veut dire que la crise du Covid est encore loin d'être terminée. Et on le vérifie chaque jour dans le monde, où il est question désormais de reconfinement dans de nombreuses régions. Donc à nouveau, les habitants qui sont appelés à rester chez eux. C'est le cas ce lundi dans le nord-est de l'Espagne, où la question du reconfinement est même au cœur d'une bataille judiciaire. C'est le cas également à Tanger, ville d'1 million d'habitants au Maroc. C'est le cas enfin d'une partie de Manille, la capitale des Philippines. L'inquiétude, d'une manière générale, est forte. La menace d'une deuxième vague est réelle, affirme ce lundi le ministre allemand de la Santé. Dans le monde, ce sont toujours les États-Unis qui constituent le pays le plus lourdement touché par cette pandémie. Aux États-Unis, où des Covid parties sont organisées, en d'autres mots, des soirées où se retrouvent des participants qui ne croient pas à cette pandémie de coronavirus. Et les conséquences sont graves, comme au Texas, l'un des États les plus touchés, où un homme est mort après avoir participé à l'une de ces Covid parties, l'une de ces soirées. C'est un médecin de l'hôpital de San Antonio qui diffuse la nouvelle sur les réseaux sociaux afin d'alerter sur la dangerosité de ce virus. Cécile Dacosta.
Avant de mourir, l'homme de 30 ans aurait adressé ces mots à l'une de ses infirmières. « Je pense avoir fait une erreur, je croyais que le coronavirus était un canular, ce n'en est pas un. » L'histoire est racontée par Jane Appleby, médecin à l'hôpital de San Antonio où est décédée la victime. L'homme avait récemment participé à une Covid party, une soirée organisée par une personne positive au Covid-19. Le but est de s'exposer au virus pour savoir s'il existe ou pas. Souvent, les participants se font concurrence pour être les premiers à contracter la maladie. Même si certains experts mettent en doute leur existence, ce type de fête n'est pas rare aux États-Unis. D'autres ont déjà eu lieu, notamment en Alabama, où des étudiants ont même parié de l'argent. La première personne contaminée raflait la mise. Le docteur Appleby rappelle que le virus n'épargne pas les jeunes. Dans son son service, la médecin-chef voit de plus en plus de jeunes entre 20 et 30 ans malades du Covid-19. Le problème, dit-elle, c'est que ces jeunes pensent qu'ils sont invincibles. Elle les appelle à prendre le virus au sérieux et surtout à porter un masque.
Voilà, Cécile Dacosta du service international de RFI. Dernière information concernant les États-Unis et cette pandémie de coronavirus. Le gouverneur de Californie annonce ce soir que les restaurants et cinémas vont être à nouveau fermés dans l'ensemble de l'État.
Les journaux en français facile.
La crise à Bamako, à présent la capitale malienne. L'information du jour, c'est la libération des leaders de la contestation. Ils avaient été arrêtés en fin de semaine dernière. C'est un geste d'apaisement de la part du président, Ibrahim Boubacar Keïta. Alors que ce lundi, encore des heurts se sont produits dans le quartier de Badalabougou à Bamako, les contestataires dénoncent les difficultés économiques du pays et les défaillances du pouvoir. En Pologne, le suspense a été maximal. C'est ce matin seulement que le conservateur Andrzej Duda a été réélu président de la République. Après une nuit d'incertitude, puisque les scores étaient très serrés avec son adversaire du centre, Rafał Trzaskowski, le chef de l'État sortant recueille finalement 51,21% des suffrages. Score très serré, c'est la preuve que la Pologne est profondément divisée. C'est une correspondance à Varsovie de Thomas Giraudeau.
Victoire en demi-teinte pour Andrzej Duda. Si l'élection avait eu lieu au mois de mai, comme prévu initialement, il l'aurait certainement emporté facilement dès le premier tour. Finalement, il devance de peu son adversaire. Rafał Trzaskowski est même en tête dans davantage de régions, 10 précisément contre 6 pour le président sortant. Et si l'on regarde la carte des résultats, on retrouve ce clivage entre l'Ouest, plus libéral, qui a voté en majorité pour Trzaskowski, et l'Est, conservateur, plus pauvre, attaché aux traditions que veut défendre Andrzej Duda. Cet écart de moins de 500 000 voix entre les deux hommes est donc le symbole de la fracture profonde entre deux Polognes très proches en nombre d'électeurs hier soir. Les campagnes, petites villes, personnes âgées pour Duda, les grandes agglomérations, les plus jeunes pour Trzaskowski. Fracture générationnelle, géographique, idéologique. Le chef de l'État a assuré hier soir qu'il allait rassembler les Polonais, s'excusant s'il a blessé certains durant sa première mandature ou pendant la campagne. Mais quelques minutes plus tard, il a déclaré qu'il ne regrettait aucun de ses mots, notamment ses récents propos très violents contre les personnes LGBT. Thomas Giraudeau, Varsovie, RFI.
Il est 22h07 ici à Paris, l'actualité en France avec ce lundi la signature des accords de Ségur. Ce nom Ségur avait été choisi par l'exécutif pendant la crise du coronavirus et cela correspond à un plan en faveur des soignants car la pandémie a révélé les profondes difficultés de ce secteur. Alors ce plan s'élève à 8 milliards d'euros. Principalement, il s'agit de hausse de salaire ou de hausse d'indemnité. C'est un moment historique pour notre système de santé, a déclaré Jean Castex, le Premier ministre. Il était présent lors de la cérémonie de signature de ces accords. Accords qui, malgré tout, divisent les syndicats, puisque parmi les syndicats majoritaires, 3 ont signé le plan, tandis que 2 autres l'ont rejeté. La Fashion Week, enfin, la semaine de la mode. Officiellement, cette semaine, c'est la ville de Milan, en Italie, qui accueille l'événement. La semaine dernière, c'était Paris, la capitale française. Mais évidemment, tout se passe par Internet. En raison de la crise du coronavirus, on va faire le bilan de la semaine de la mode parisienne avec Sébastien Gédor. C'est un bilan mitigé.
Dans une forêt de contes de fées, deux hommes transportent une mystérieuse malle. Au fil des sentiers, ils croisent des nymphes à la peau diaphane qui se rafraîchissent dans un ruisseau. La malle s'ouvre. En miniature, elle contient la collection automne-hiver de Dior. Il ne reste plus qu'à prendre les mensurations des nymphes pour ajuster les robes. Ce film onirique de 10 minutes est signé Matteo Garrone, l'auteur, entre autres, du film Gomorra sur la mafia italienne. C'est ce court-métrage, visionné près de 4 millions de fois sur YouTube, qui tient lieu de défilés de mode pour Dior. D'autres créateurs sont allés beaucoup moins loin, aux grandes dames du public et des critiques. Chez Chanel, un clip très court, au plan d'une demi-seconde en moyenne, annonce une saison marquée, je cite, par le désir d'opulence et de sophistication. Pour en savoir plus, rendez-vous à Shanghai début août, où les professionnels espèrent voir de vrais mannequins défiler sur des podiums non virtuels. Car si tout le monde s'accorde à dire que les présentations sur Internet popularisent les collections, difficile de se rendre compte sur un écran de la finesse des tissus ou des broderies. Dans des films souvent prétentieux, le clinquant est là, mais l'émotion a disparu.
Et c'était Sébastien Gédor du service culture de RFI. Et c'est ainsi que s'achève le journal En français facile, réalisé ce soir par Claude Battista. Il est 22h10 ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Merci de nous écouter sur RFI.